franceinter.fr.
Traiter certaines formes d'obésité sévère donc grâce à un médicament, c'est pour bientôt et c'est aujourd'hui à la une de la science.
Faites quoi là ?
Je calcule votre poids santé.
Donnez-moi le régime le plus dur. Des médicaments, des coupes fins, de la morora, du décapfour, n'importe quoi du moment que je ressors d'ici maigre.
Extrait du film « Mince alors » et les recherches sur la génétique de l'obésité et la prise de poids initiée maintenant il y a plus de 20 ans, qui portent enfin leurs fruits avec une nouvelle molécule testée pendant 6 mois et qui démontre son efficacité sur des patients souffrant d'obésité d'origine génétique. C'est une étude importante publiée dans la revue Nature Medicine dont on discute avec notre invité Axel.
Mathieu, nous sommes avec la nutritionniste Karine Clément. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes clinicienne et professeure de nutrition à Sorbonne Université. Vous êtes l'investigatrice principale de la partie française de cet essai. Pour commencer, de quelle forme d'obésité est-ce qu'on parle ici et quelles sont les personnes qui sont concernées par vos travaux ?
Alors, il s'agit effectivement de patients très obèses, très tôt, dès les premiers jours de vie. C'est-à-dire que ce sont des bébés qui naissent avec une envie insatiable de manger. Et donc qui ont une forme génétique, ou plutôt des formes génétiques, parce qu'il s'agit d'une voie biologique qui est impliquée dans le contrôle de la prise alimentaire. Et donc vraiment, ce sont des enfants qui atteignent une obésité très tôt dans la vie, et puis des formes sévères d'obésité.
Quels sont les symptômes, quelles sont les raisons de cette faim permanente dans le cas de ces troubles ?
Alors ça a été le résultat de progrès, la compréhension en fait de ces mécanismes a été le résultat de progrès important qui était de montrer la relation entre le tissu graisseux et le cerveau. Et en fait, en 94, donc plus de 20 ans, a été identifiée une hormone qui est fondamentale dans cette relation qui s'appelle la leptine. Et donc effectivement, la leptine informe le cerveau des réserves énergétiques. Et chez ces patients, ce message ne passe pas puisqu'il est bloqué. Parce qu'il y a une mutation sur cette voie qui fait que les personnes n'ont pas d'informations sur l'état de leur stock énergétique.
Et ça veut dire que chez des bébés, dès le plus jeune âge, dès les premiers jours de vie, il y a ce comportement donc autour de l'alimentation et donc du lait même maternel
pour le coup. Absolument. Ouais. Donc ce que disent les parents, ils décrivent ça très très bien parce que c'est très dur à vivre. Ce sont
bien
des
sûr,
bébés qui pleurent tout le temps. Et le seul, ils ont faim. Et le seul, et c'est vraiment ce que j'explique aux parents, c'est une faim biologique. Et donc le seul moyen de calmer les enfants, c'est de mettre le biberon dans la bouche ou le sein. Et donc ils ne sont jamais rassasiés. Et ensuite, à l'âge adulte, les patients décrivent très bien cette absence. Et en fait, ils ne se rendent pas compte de la faim, puisque pour eux, c'est naturel. Mais par contre, cette absence de rassasiement.
Quelle a été l'approche pour vous pour mettre au point ce traitement qui vient d'être testé avec succès, on peut le dire ?
Alors, comme vous l'avez dit dans l'introduction, c'est une histoire longue qui est partie des approches génétiques et qui a permis, il y a 20 ans, et en 98 exactement, on avait identifié la première mutation sur le récepteur de la leptine. Et donc, l'approche a été de dire, ça a mis le doigt sur cette voie biologique en fait. Et donc, cette voie était identifiée. Il y avait dans le système un récepteur important qui s'appelle le récepteur aux mélanocortines, ou MC4R, récepteur aux mélanocortines de type 4. Et en fait, ce récepteur, quand il est activé, ça permet de justement réguler la faim, réguler la prise alimentaire et la dépense énergétique. Et donc, il était clé. Et en fait, quand on l'active, si vous voulez, on bypass tout le système. C'est-à-dire qu'on bypasse à la fois le récepteur de la leptine, donc c'est une sorte de court-circuit biologique.
Ça veut dire que les personnes qui reçoivent le médicament ne ressentent plus cette faim permanente
que
vous décriviez ?
Alors ça, c'est quelque chose qui est impressionnant. C'est effectivement, dès la prise en charge, les premières semaines de traitement, en fait, c'est pas qu'ils ressentent plus la faim, c'est qu'ils ressentent à un moment donné les signaux. Comme je vous l'ai dit, la faim, quand vous êtes né avec cette faim biologique, vous ne vous rendez pas compte que vous avez faim tout le temps. Mais par contre, quand on leur donne le traitement, ils se rendent compte que ça peut être régulé. Donc c'est un sacré bouleversement pour ces personnes de comprendre qu'à un moment donné, on peut arriver à réguler cette faim et surtout d'être rassasié au moment des repas. Les patients disent « je suis comme un puits sans fond ». C'est-à-dire je n'ai pas de signal non plus de rassasiement.
Vous parliez des plus jeunes tout à l'heure. Est-ce qu'il serait envisageable de tester cette molécule sur des très jeunes enfants qui ont ce problème à partir de la naissance, comme vous l'avez
Alors,
dit.
C'est ce qu'on souhaite aujourd'hui, puisqu'effectivement, il y a des enfants très jeunes qui ont été dépistés. Aujourd'hui, le traitement est autorisé par les agences de régulation, en tout cas en France, au-delà de 12 ans.
Alors, donc là, ça a été fait sur des adultes. Concrètement, la perte de poids, elle se manifeste comment, alors ?
Alors la perte de poids, les effets sont ce qu'on peut observer lorsque on parle, vous voyez, de la chirurgie de l'obésité par exemple. Donc c'est des pertes de poids assez importantes. Là je peux vous citer par exemple une patiente qui a été traitée depuis près de 2 ans. Bon, on observe des pertes de poids de entre 40 et 60 kilos par exemple.
Elle pesait combien avant le traitement ?
160. Donc effectivement c'est des pertes de poids et qui sont très très associées justement à la régulation de ce comportement alimentaire. C'est assez spectaculaire chez certaines personnes. C'est-à-dire que dès les premières semaines, on voit la régulation du comportement alimentaire et puis la perte de poids qui va avec.
Des essais précédents avaient été arrêtés à cause d'effets secondaires importants. Est-ce que là, vous avez noté des effets secondaires avec cette molécule ?
En effet, les premières générations de molécules, ça fait longtemps qu'on avait mis le doigt sur cette voie, comme je vous le disais, 20 ans. Effectivement, les premiers médicaments agissaient par voie orale. Et on se contraint toujours, quand on essaie de contrôler la prise alimentaire, c'est les effets secondaires sur le cœur. L'hypertension artérielle, les effets cardiovasculaires. Et donc, malheureusement, oui, les premières générations de molécules avaient ces effets-là. Et ça ne semble pas être le cas avec cette molécule-là qui est donnée par voie injectable et qui est très spécifique du récepteur, qui est donc dans le cerveau. Bon, bien sûr, on est au début, il faudra suivre, mais en tout cas, les premiers essais depuis maintenant pas mal de temps dans les modèles animaux et puis maintenant chez l'homme ne montrent pas d'effets cardiovasculaires.
Une dernière question, qu'est-ce qu'il se passe pour ces patients qui participent à un essai qui est concluant et quand l'essai s'arrête, est-ce qu'ils peuvent continuer à prendre le traitement qui leur fait du bien ?
C'est un enjeu fondamental, et c'est ce qu'on a discuté. Quand on passe à ce stade-là, on est dans le stade du passage vers l'industrie, et c'est ce qui est discuté d'emblée avec les personnes qui développent la molécule, c'est le traitement à long terme, puisque ces personnes ont un déficit génétique, et donc ils ont besoin de ce traitement. C'est comme quand vous êtes diabétique à l'insuline, vous avez besoin de l'insuline. Et donc là, dans la discussion, on est en train de passer déjà aux phases de la prise en charge long terme. Donc il y a un engagement effectivement pour que ces personnes soient traitées sur le long terme. En tant que médecin, c'est pas acceptable qu'on dise il y a un effet et puis ensuite on doit arrêter.
Karine Clément, rapidement, là on parle de forme très grave d'obésité. Évidemment, tous ceux qui ont du surpoids se disent mais pourquoi est-ce qu'on dose pas autrement cette molécule pour l'utiliser, même pour un surpoids quelconque ? Ça pourrait fonctionner ou pas ?
Alors là, on est effectivement, comme vous l'avez dit, dans une voie qu'on a bien identifiée, déficitaire pour lequel on traite spécifiquement. Maintenant, il n'est pas exclu que dans le futur, cette voie qui est quand même importante dans le contrôle de la prise alimentaire puisse être regardée à nouveau et peut-être que dans le futur, d'autres patients pourraient bénéficier de ces traitements. Mais encore une fois, on est dans des formes sévères d'obésité
et
il faut rester prudent dans ce domaine. Il y a eu beaucoup d'échecs, c'est un sujet sensible. Il y a eu beaucoup d'échecs dans ce domaine et là, il faut, je pense, pour les patients, déjà conserver ce qu'on a et ensuite on va voir pour la suite.
Voilà, très belle étude en tout cas et avec des résultats importants donc dans la revue Nature Medicine et dont vous êtes le premier auteur, Karine Clément. Merci beaucoup d'être venu ici nous en parler. Merci Axel.
Et à demain.
À demain. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, chez les poissons, la taille des mamans compte énormément. Une nouvelle étude menée par des biologistes de l'université de Clayton en Australie démontre que les plus grosses femelles sont les plus fertiles. Un lien entre les dimensions de l'animal et sa capacité reproductive, encore plus important que le pensaient les scientifiques. Et surtout une découverte clé qui pourrait faire bouger les politiques de pêche intensive, puisque les gros poissons sont évidemment les plus capturés dans les filets. Les chercheurs soulignent également que le réchauffement climatique en cours tend à faire diminuer la taille des poissons. Faire pousser un petit cerveau de néandertalien en laboratoire, eh bien c'est le projet original d'une équipe de chercheurs de Svante Paabo de l'Institut Max Planck à Leipzig en Allemagne. Pour y parvenir, les scientifiques auront recours à l'ingénierie génétique pour faire s'exprimer donc les gènes néandertaliens encore présents en petite quantité chez les hommes actuels. L'objectif final de l'expérience est de trancher sur les capacités cognitives des néandertaliens longtemps sous-estimées. Et puis enfin, ce qui devait disparaître disparaîtra. Les restes du Titanic pourraient littéralement être mangés par une bactérie d'ici 20 ans. C'est ce que rapporte la BBC. On sait qu'aujourd'hui, Allomanas titanicae, la bactérie découverte sur la coque du bateau en 2010, est capable de ronger les parties métalliques du bateau et résiste à des conditions extrêmes de chaleur, de salinité et de pression élevée. S'il paraît impossible de sauver l'épave du Titanic, la scientifique Henrietta Mann continue d'étudier la bactérie afin de préserver les plateformes pétrolières, les tuyaux en fer et autres structures dans l'océan, donc pour étudier la dégradation.